France Musique.
Bonjour Nicolas Lafitte et bon week-end à vous.
On va déborder un petit peu, le fichier se termine à 6h58 et 5 secondes. Est-ce que tu peux m'envoyer un petit peu de musique, s'il te plaît ? Parfait pour le 1000. Est-ce que je peux te mettre à l'antenne ?
Il y a du café ?
Ouais, du café. J'arrive.
Bonjour à tous en ce samedi matin qui, une fois de plus, vous entraîne dans les coulisses de la musique à la Maison de la Radio. Vous le savez, c'est le principe de fabrication maison. Ce matin, le portrait fera découvrir aux auditeurs de France Musique Elsa Boublil, qui officie sur France Inter et qui est aussi la marraine d'un très joli projet. Pour son reportage, Aliette Delalleux est allée à Nancy au-devant des lycéens qui participaient au Grand Prix lycéen des compositeurs, dont la remise s'est déroulée ici jeudi dernier. Dans sa chronique, Marie Fauché chantera a cappella. À 8h30, les archives de Jean-Yves Pat seront espagnoles. Et enfin, à 8h45, nous découvrirons la lettre de notre auditeur. Il s'en passe des choses à la Maison de la Radio, non ?
France Musique.
Bonjour Elsa Boublil.
Bonjour Dominique.
Alors on inverse les rôles cette fois-ci, c'est moi qui vous interroge, ouais. C'est peu habituel.
J'aime bien, c'est tout à fait insolite.
C'est insolite, c'est agréable en fait.
Ou on va voir.
On va voir.
Non, je pense que ça le sera, mais c'est toujours intimidant de se retrouver dans cette place-là, évidemment.
Alors Elsa, vous êtes la marraine d'un très joli projet, je le disais. Ce projet, est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ?
Il s'agit d'un concert qui aura lieu d'ailleurs tout à l'heure à la Maison de la Radio. Un très joli projet parce que ce sont les enfants du monde entier qui sont dans les lycées français, qui vont se regrouper aujourd'hui à la Maison de la Radio pour faire un concert. Mais ils se sont entraînés via les nouvelles technologies, donc Skype par exemple, pour pratiquer leur instrument, pratiquer les morceaux qu'ils vont jouer. Et finalement se retrouver alors une fois à Madrid au mois de janvier. Ouais. Et là, cette semaine, ils se sont retrouvés tous les jours. Alors c'est soutenu par des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Radio France qu'on aime tant, je pense, vous et moi. Et en fait, ce qui est très beau dans ce projet, et une chorale de Marcoussi, ce qui est beau, c'est que, je ne sais pas si vous avez pratiqué la musique, moi je l'ai pratiqué.
Oui,
et en fait, quand on fait de la musique, on aime que ce soit concret. Donc quand vous pratiquez votre instrument et que vous savez que vous allez jouer dans un projet comme un bel orchestre comme celui-ci, et puis faire ça devant un public, enfin, et se dire que ces enfants sont dans des lycées français du monde, qu'a priori ils n'auraient jamais dû se rencontrer et qu'ils se réunissent autour d'un projet qui a lieu chez nous. Voilà, j'ai marrainé ce projet parce que je me disais que des jeunes qui font de la musique, qui partagent en commun la langue française, finalement, il paraît en plus que ça a été assez difficile pour certains d'entre eux de quitter leur pays. Eh bien, c'est extraordinaire que nous, à Radio France, on soit un peu les organisateurs de cela, d'une certaine manière, en tout cas qu'on les accueille.
Ils ont deux langues en commun, ils ont la langue française et la musique.
Et la musique, exactement, c'est exactement
ça. Une langue qu'ils ont en commun avec nous, la musique, puisque Elsa, vous nous avez fait votre très joli portrait musical et on commence tout de suite par rentrer dans le vif du sujet.
Thank you.
Ça n'est pas rien, Elsa Boublil, pour commencer la journée, que cette clarinette de Yom.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans la clarinette, on entend les clés, à la fin, on entend sa respiration, on entend cette puissance qu'il met dans le souffle et dans le son.
Il y a quelque chose d'organique.
Oui, c'est complètement organique. C'est pris de manière acoustique et ces instruments se transforment presque en terre. C'est bizarre. C'est comme s'il y avait un son qui venait du fin fond d'un désert et qui s'élevait. Alors pour se réveiller, c'est pas mal.
Je trouve ça pas mal. Dans cet extrait d'un disque qui s'appelle Le silence de l'Exode, le morceau s'appelait Ramsès. La clarinette, Elsa, c'est votre entrée dans la musique.
Oui, quand j'ai commencé à apprendre la musique à 5 ans, on m'a demandé quel instrument tu veux jouer. J'ai dit la clarinette. Alors, personne ne savait d'où ça venait. Moi, j'allais régulièrement chez un copain dont la grande sœur faisait de la clarinette. Et ce son m'a attrapé tout de suite. Et comme là, il m'attrape à chaque fois que je l'entends, je suis saisie. Et donc, j'ai dit que je voulais faire de la clarinette. Alors, à 5 ans, évidemment, on peut pas faire de la clarinette. C'est un grand instrument. Il faut avoir des mains quand même assez développées. Mais dès que j'ai pu en jouer, j'ai commencé. Et ma mère était toujours éblouie parce que j'ai réussi à sortir un son tout de suite, voilà, qui est pas simple. Et oui, c'est un instrument que j'adore. J'adore la rondeur de la clarinette. J'adore ce qu'on peut faire avec, comme ce que fait Yom, ce registre musical qui est entre deux, qui est pas du jazz complètement. On peut faire du jazz, bien sûr, qui peut vraiment sortir de la musique classique sans problème, sans pour autant pervertir aussi l'instrument. Ce qui est assez rare, c'est-à-dire qu'on dirait que par moment, il faut faire un choix, quoi. Avec la clarinette, on peut faire absolument ce qu'on veut. Bon, le piano a ses mêmes possibilités, mais ils sont pas nombreux les instruments qui permettent autant d'aller de l'un à l'autre. Et ça, moi, ça me plaît, évidemment.
Alors, le piano, on en parle, c'est votre deuxième choix. Oui. Mais c'est un piano avec quatre mains dessus.
Ah oui, c'est Schubert, alors.
Ouais, c'est Schubert. Thank you. On a de la difficulté à quitter cette fantaisie en fa mineur de Schubert, n'est-ce pas, Elsa Boublil?
Oui, c'est cette œuvre où on a l'impression que la lumière le gagne, Schubert, à mesure que la vie s'éteint. Et ce que j'adore, en fait, c'est le partage, ce partage de jouer du piano à quatre mains, cette façon
ici,
de
Claire Désert et Emmanuel Strasser.
Ouais, cette façon de communiquer, de passer d'une parole à l'autre, de deux mains à deux autres mains, on ne sait plus lesquelles sont lesquelles, et cette façon de partager la musique en fait, j'adore ça. C'est ce qui m'a manqué d'ailleurs quand j'étais petite en clarinette. Je me dis ah oui, mais en fait on est très seul. Pour en revenir à ce projet de la EFE, c'est ça qui est beau, c'est quand à un moment
la EFE étant cet orchestre donc des
jeunes francophones,
français,
voilà, cette façon de se réunir autour d'une musique quand on joue à quatre mains. Alors le piano est un instrument qui est facile à combler, on peut combler comme ça un appétit de musique, mais on fait rarement des concerts. Et là, jouer à quatre mains, c'est partager tout d'un coup sur un clavier une mélodie aussi simple que celle-ci à chanter, bien sûr qui n'est pas du tout simple dans la partition, mais où on va pouvoir échanger, les mains vont se rencontrer, les cœurs vont se rencontrer autour de notes de musique, c'est sublime. Mmh. Alors, moi, ça me fait pleurer à chaque fois, c'est comme ça. Mais
c'est ça qui est bien avec la musique, c'est que les émotions sont presque primaires.
Oui.
Et c'est important.
Et ce sont des larmes de bonheur, en fait, effectivement,
oui.
Aussi.
Il y a quand même quelque chose de l'harmonie qui est atteint. On se dit, tiens, mais c'est parfaitement juste. Mm. Ça exprime un état qui est le mien, de façon parfaite.
Oui, dans cette interprétation en particulier, j'ai l'impression qu'ils sont dans la justesse absolue, à la fois dans le tempo qu'ils prennent, dans la façon de ralentir certaines notes. Comme ça, c'est d'une grande beauté. Hein.
Mm-hmm. Alors Elsa, vous êtes passée du jazz, qui est un petit peu ce que vous avez fait pendant longtemps sur France Inter,
oui.
À la musique classique.
Oui.
Maintenant, c'est tous les jours à 16h qu'on peut vous entendre sur France Inter.
Et le vendredi jazz. Hein.
Et le vendredi jazz quand même, hein, on quitte pas comme ça ces vieilles amours. En même temps, vous le disiez tout à l'heure, il y a un passage assez naturel de l'un à l'autre.
Oui, alors c'est l'histoire de ma vie, parce que en fait, moi j'ai commencé par la musique classique. Et puis, à un moment, je me suis demandé si j'allais pas poursuivre, c'est-à-dire me lancer dans quelque chose de plus professionnel. Et puis, c'est le jazz qui m'a prise tout d'un coup, vers l'âge de 17 ans. Le jazz m'a tellement prise que, effectivement, en étant clarinettiste et pianiste, je me disais, tiens, quel monde à explorer. Je l'ai exploré tant que j'en ai fait un DEA à l'université sur le jazz et les mouvements sociaux. Et en fait, c'est un va-et-vient permanent qui s'est fait entre le jazz, la musique classique. Et pour moi, avec cette petite douleur de se dire que ces deux mondes étaient séparés. Souvent, quand je présentais Summertime, je prenais beaucoup de plaisir à tout d'un coup mettre un morceau de musique classique pour dire, voilà, pourquoi nous séparer ces deux mondes qui sont tellement proches? Et donc voilà, donc c'est rigolo avec vous de faire cette allée, c'est va-et-vient parce que c'est ma vie.
Oui, puis ça a été la vie de beaucoup de compositeurs quand le jazz est arrivé sur les scènes européennes au début du XXe siècle. Pas mal de compositeurs s'en sont emparés.
Oui.
Ça n'était pas le cas de Mozart.
Ah, non.
Thank you. C'est Sabine de Vielle qui chante Mozart et ô combien bien.
Ah oui, c'est extraordinaire. Cette lamentation amoureuse. D'abord, l'histoire est tellement belle parce que c'est Mozart épris d'amour pour la sœur de Constance Weber, Aloysia, qui décide de lui composer cette air qui est une déclaration d'amour. Et c'est une déclaration d'amour écrite en italien. Alors, donc on imagine Aloysia recevant la partition. Déjà, ça c'est sublime. Mais l'air et d'une pureté, on se dit, mais quand on reçoit une chose pareille, dans quel état on peut se trouver? Alors, on ne sait pas.
En tout cas, elle n'est pas tombée amoureuse.
Non, elle n'est pas tombée amoureuse.
Ça ne lui a pas fait grand-chose, mais si ce n'est qu'elle l'a chanté.
Elle l'a chanté, oui. Et Sabine de Vielle a réussi à nous faire entendre tout ça. C'est ça qui me plaît tellement. On sent cette retenue et à la fois cette pureté, cette façon de découvrir, on dirait en même temps que la partition, c'est ces mots d'amour qu'elle dit. Et alors, ce que j'adore par-dessus tout, avec cette chanteuse qui est Sabine de Vielle, et en particulier dans cette air-là, c'est donc le duo hautbois-voix, une sorte d'unisson, de dialogue et d'unisson vocal où tout d'un coup, la voix se transforme en instrument. Moi, c'est, en tout cas, moi, c'est ce que j'aime dans la voix, c'est quand elle se soustrait à la voix elle-même et que on entend un instrument qui nous raconte des histoires à l'oreille, comme les instruments de musique les meilleurs savent le faire. Mmh. Vous en doutiez.
Hein. je me doutais parce que je trouvais que clarinette au bois. Mmh. Et puis il y a ce souffle aussi, ce souffle qui traverse la voix, qui traverse le joueur de clarinette. Mmh. Il y a une respiration nécessaire. Mmh. Tout ça est en jeu aussi dans la voix.
Oui, c'est vrai. Et puis cette façon de rétrécir son souffle au strict nécessaire, on l'entend dans la voix de Sabine de Vielle. C'est-à-dire que il suffit d'un filet de souffle et de voix pour nous transpercer l'âme. Les meilleurs moments, en tout cas, que j'ai éprouvés avec la clarinette, ce sont ces moments-là où, avec rien, vous arrivez à vraiment faire passer quelque chose d'essentiel.
Glenn Gould se débrouille pas mal pour faire passer quelque chose d'essentiel de la musique de Bach, lui aussi.
Thank you.
Les doigts vous démangent, Elsa Boublil, je le sens.
Bah oui, non mais j'ai joué, en fait, quand j'ai commencé à jouer du piano, je n'ai joué que Bach. Parce que j'avais un ami très cher de mon père et mon père lui-même qui pensait que je n'étais faite que pour jouer Bach.
Allons bon.
Voilà. Bon, et donc, comme je les adorais, je les ai suivis. Et cette partie-là en particulier, je l'ai jouée, rejouée, avec ce moment qui, en fait, me mettait en état de transe à chaque fois et qui le fait quand je l'écoute par Glenn Gould. Vous savez, à la fin du Symphonia, quand il y a ce point d'orgue et qu'on enchaîne sur la suite, ce moment de blanc, de suspens, c'est un suspense incroyable. Oui, c'est toute mon adolescence, toute ma vie d'adulte. Je continue de le jouer avec ce même plaisir fou de faire courir mes doigts sur le clavier après cette introduction lourde et pesante.
Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un côté véloce, un côté course-poursuite.
Oui, et de liberté, c'est-à-dire on est dans ce carcan là, de ces accords qui se succèdent, et puis tout d'un coup ça part, ça vous libère, et on a l'impression d'être dans une vraie possibilité de liberté et de choix. C'est marrant.
C'est marrant. Ouais. Elsa, pour terminer ce portrait, nous allons retourner à vos amours qui sont quand même toujours aussi autant avec la musique classique, le jazz, avec donc Mingus.
Oui, oui, finalement toujours la liberté, c'est le mot qui revient toujours.
Mais Mingus, pourquoi Mingus pour vous c'est la liberté?
Ah, pour moi Elsa Mingus Bobby, c'est le plus grand musicien de jazz que j'ai croisé, c'est-à-dire. Non, il y en a plein. Mais lui, il me fait penser d'abord à ce combat qu'il a mené en tant que métisse avec ses identités multiples qui l'ont embrouillé jeune. Ce musicien violoncelliste classique qui ne s'y retrouve pas, qui n'a pas la place, qui ne peut pas trouver sa place et donc qui choisit de devenir contrebassiste avec cette rage contre la société américaine, cette rage contre le racisme, cette façon qu'il a de se poser toujours presque en imposteur alors que c'est l'un des plus grands compositeurs. J'adore. Et puis, il est tellement joyeux. Il est enragé, mais tellement joyeux. Alors, en plus, c'est Fables of Phobos. Ça raconte cette rage qu'il a. Je ne sais pas si vous savez, mais le premier enregistrement qui a été donné de ces Fables of Phobos, on a censuré ces paroles, qui étaient des paroles qui dénonçaient le racisme qui s'était passé un peu plus tôt en Arkansas. Et donc, quelques années plus tard, il dit non, mais moi, je veux enregistrer les paroles. Et donc, il les crie, il les chante. Et cette façon qu'il a de les crier, de les chanter, oh, pour moi, c'est libérateur. Voilà, et puis dénoncer le racisme, ben c'est encore d'actualité, non?
Oh Lord, don't let us hear us, oh Lord, don't let them stab us, oh Lord, don't let them kill us, oh Lord, no more swastikas. Yeah.
Original Fables of Phoebus, oui. Charles Mingus. Pour terminer ce portrait, Elsa Boublil, c'est pas mal de terminer avec cette vindicte musicale.
Oui, ça donne envie de continuer de défendre la création, non?
Ouais. Bon, on n'était pas contre.
Non, nous, on adore ça, je crois. Hein.
Alors, on a rendez-vous avec vous, si on le souhaite, à 16h dès lundi.
Oui.
16h, vous recevez
sur France
lundi.
Inter. Hein.
Bah oui, sur France Inter, c'est vrai. Vous recevez
David Krakauer, le clarinettiste. Alors encore clarinettiste.
Ça, il est encore clarinettiste.
Klezmer,
oui.
Mais lui, il est New-Yorkais et il a fait ce qu'on appelle le New Klezmer. C'est vraiment le Klezmer underground New-Yorkais, bon, qui s'est développé grâce à John Zorn notamment et lui. Et comme il est génial et il s'est associé à des musiciens français, et je peux vous dire que oui, lui aussi, il faut le suivre de près parce que c'est quelqu'un qui nous transporte.
Merci Elsa Boublil.
Merci à vous.
Le Grand Prix lycéen des compositeurs a récompensé jeudi dernier Carole Beffa à l'auditorium de Radio France. Une consécration que les lycéens préparent pendant un an. Bonjour Aliette Delalleux.
Bonjour Dominique Boutel.
Alors Aliette, expliquez-nous un petit peu ce qu'est ce prix des compositeurs qui a déjà 17 ans d'existence.
En fait, ce prix récompense chaque année un compositeur sur 6 candidats et ce sont les lycéens qui votent. Alors, il y a aussi les professeurs qui votent, c'est un deuxième prix, mais les jeunes sont vraiment au cœur du projet.
Alors, pour ça, il y a les cours de musique où les professeurs abordent les œuvres en compétition et les rencontres avec des compositeurs dans toute la France. L'idée, c'est de créer un moment d'échange avec ces créateurs d'aujourd'hui pour que les jeunes puissent leur poser toutes leurs questions. Donc, mardi 8 mars, vous êtes allés à Nancy avec 2 des 6 compositeurs en compétition, Christian Zanesi et Laurent Lefrançois. Et alors, c'était quoi l'objectif du voyage?
Alors l'objectif, c'est d'abord la rencontre. Les lycéens de Nancy qui participent au Grand Prix se sont tous réunis dans une grande salle du lycée Donneau. Et tout l'après-midi, les deux compositeurs ont répondu aux questions des jeunes, alors autant sur la musique que les œuvres et sur leur vie.
Alors, quand on est compositeur de musique contemporaine, est-ce qu'on n'écoute que de la musique contemporaine ou autre chose?
Aujourd'hui, vous aurez du mal à trouver un compositeur de musique qu'on dit sérieuse comme ça, musique de concert, qui n'écoute pas autre chose. De toute manière, vous vous baladez en ville, la musique est omniprésente, la musique est partout, donc vous ne pouvez pas faire autrement à moins de s'isoler, jouer le moine. Je me souviens plus jeune, en boîte de nuit, trouver des choses intéressantes, des choses fascinantes, des DJ pouvant créer une telle force que tout le monde se lève sur un titre, tout le monde se lève d'un coup et va danser.
Je suis Paul-Henri Claudel, professeur d'éducation musicale au lycée Claude Donneau à Nancy, dans la section de brevet de technicien des métiers de la musique.
Et vous avez fait découvrir à vos élèves les œuvres du Grand Prix lycéen.
Oui, tout à fait. Ce n'était pas toujours évident pour les élèves parce qu'ils n'ont pas du tout l'habitude d'écouter ce genre de musique. Alors dans un premier temps, je fais une écoute simple sans leur donner aucune consigne. Ensuite, je leur présente un petit peu le compositeur. Je donne quelques pistes qui ont été préparées par l'organisation du Grand Prix lycéen des compositeurs. Je les laisse surtout parler parce que c'est ce qu'ils ressentent eux qui est important. Et après, ils vont tout de suite réagir en disant c'est pas bien, ça nous plaît pas, ça c'est génial, ça on supporte pas, ça il y a un son, on dirait un bruit, il nous fait mal aux oreilles. Là, on sent qu'il y a quelque chose de bien, là il y a beaucoup de virtuosité, là ça fait penser à une musique de film. Enfin, c'est toutes ces impressions là qu'on entend. Thank you.
Là, donc, vous avez découvert des œuvres contemporaines. Ça t'a évoqué des choses d'écouter ce genre de musique?
Comme j'en écoute pas d'habitude, oui, quand même. Après, je saurais pas trop vous dire quoi. Mais oui, je dirais, je sais pas, j'avais envie un peu de danser.
Et le fait de rencontrer des compositeurs?
C'est toujours plus intéressant parce qu'on peut leur poser des questions, on peut partager des choses avec eux, alors que si on les voit jamais, on peut pas participer, quoi.
Est-ce qu'avant, tu avais des a priori sur la musique contemporaine?
Oui, je pensais mais vraiment que c'était nul. Et on a commencé à en écouter l'année dernière. Et franchement, j'ai adoré. Mais je ne sais pas le style de musique que j'écouterai tous les jours.
Il y a certaines œuvres où ils ont systématiquement accroché, oui. Et je dirais qu'avec trois classes, souvent, il y a un des compositeurs qui revient en tête pour les trois classes. C'est pour une découverte, et puis c'est une découverte aussi de matériaux sonores parfois qu'ils connaissent bien mais qui n'imaginaient pas de cette manière. Et je pense notamment à la musique électroacoustique par exemple. Et ça, ils apprécient beaucoup.
Ils ont rencontré donc deux compositeurs dans l'après-midi. Et comment vous leur avez présenté la chose et comment ils ont réagi eux, face à cette rencontre?
Je leur ai présenté un peu comme une chance. Je leur ai dit, des compositeurs entre guillemets classiques d'aujourd'hui, si on peut dire, c'est des compositeurs qui n'ont pas la chance de rencontrer tous les jours. C'est un petit peu comme si à l'époque de Mozart, on avait pu rencontrer Mozart ou Haydn. Là, ils ont eu la chance de rencontrer Christian Zanesi et Laurent Lefrançois. C'est deux compositeurs de notre époque. Donc, je leur ai présenté ça vraiment comme une chance, comme une découverte et comme une rencontre.
Je suis Laurent Lefrançois, donc compositeur en liste cette année pour le prix des lycéens. Le truc est quand même de sensibiliser évidemment ces jeunes étudiants à notre métier qui paraît assez énigmatique. Peut-être sortir du fantasme de la place du créateur, montrer que nous sommes bien ancrés dans notre époque. Souvent la question qui revient, est-ce que vous écoutez autre chose comme musique, évidemment? Parce que sans doute ils ont une image romantique de la création et aussi peut-être de quelqu'un vraiment replié sur lui-même, alors qu'évidemment ce n'est pas ça, et que évidemment aujourd'hui on écoute différents styles de musique, on est capable de s'intéresser à beaucoup de choses. Au début, ce qui me plaisait bien, c'est tout ce qui était abrupt, qui dissonnait, des choses Stravinsky, Bartok, les choses un peu grinçantes. J'avais pas beaucoup d'affinité avec un concerto de Mozart, justement, peut-être par manque de sensibilité encore. Mais voilà, ce qui me plaisait, c'est le côté un peu rock'n'roll de la musique classique. C'est souvent d'ailleurs une entrée pour des gens qui n'écoutent pas du tout, qui sont pas du tout dans le milieu musical. Je leur dis, mais allez voir Stravinsky, allez voir le Sacre du Printemps en vrai. Voyez qu'à la fin, quand les percussionnistes, le mec, et avec son dos, il étouffe la grosse caisse, c'est impressionnant. Il y a une dimension visuelle. Tout ça permet de rentrer dans la musique.
J'ai eu pas mal de jeunes tout à l'heure qui me disaient que la musique, c'était un moyen pour eux de s'échapper ou d'aller dans un autre univers. Vous partagez cette vision?
Oui, c'est souvent, je commence mon exposé ainsi. Enfin, quand on me demande pourquoi vous êtes artiste, je dis oui, pour proposer une autre, une vision.
Je m'appelle Marion, je suis au lycée Chopin.
Et alors, la musique, qu'est-ce que ça évoque pour toi?
Pour moi, c'est pour se libérer. Genre, quand on écoute de la musique, on sort de tout. Et voilà, on est dans sa bulle.
T'écoutes quoi comme musique pour te libérer?
De tout, mais principalement du classique et du rap.
Deux univers complètement différents.
Ouais, c'est ce que j'aime bien.
Je pense que la musique contemporaine n'est pas une section en soi, qu'il faut la réattacher à l'histoire de la musique. Un auditeur qui est capable d'aimer du répertoire, je ne vois pas pourquoi il n'aimerait pas de la musique contemporaine. Surtout s'il va à un concert, qu'il a confiance dans les interprètes qui jouent. Je suis sûr que l'auditeur est capable, après une sonate de Brahms ou quoi, d'écouter un peu de musique contemporaine. S'il a la confiance des interprètes, si il se dit, bon, on se moque pas de moi, je pense qu'il sera réceptif. Et là, on peut aller chercher les auditeurs sur cet aspect-là.
Hélène Wagner, professeure au lycée Chopin de Nancy. J'ai fait travailler des élèves de seconde et des élèves de terminale. Et les élèves de seconde, les premières séquences de cours de l'année, on a écouté des musiques électroacoustiques, histoire de, voilà, d'ouvrir les oreilles à d'autres sons. Les élèves, souvent, au premier abord, ont beaucoup de mal et réagissent assez négativement. Oui, c'est pas de la musique. Donc, on a de grandes discussions sur qu'est-ce que la musique. Et puis, c'est l'occasion d'ouvrir des portes, de semer.
Donc je m'appelle Timothée Codel, je suis en terminale S à la Malgrange et je suis en option musique cette année, comme l'année dernière et celle d'avant.
Qu'est-ce que ça évoque pour toi la musique ?
Un partage.
Et la musique contemporaine que vous avez pu écouter en cours ?
Pas nécessairement de la mélodie, mais toujours une prolongation de la musique avec une recherche de nouveautés.
Et est-ce que c'est une musique que tu pourrais écouter chez toi ?
Pas à haute dose, quoi.
Pourquoi ?
C'est pas forcément adapté à ce que j'ai envie de faire. À ce que j'ai envie d'écouter, quand j'ai envie de me détendre simplement. C'est vraiment prenant, la musique contemporaine. C'est complexe, c'est beaucoup plus complexe que de la pop, par exemple. Oui, c'est pas commun.
Alors, Christian Zanesi, je suis compositeur indépendant.
J'ai eu beaucoup de peur dans la dernière musique qu'on a écoutée cet après-midi. Avec ses sons stridents, j'ai pas du tout aimé et ça m'a fait vraiment peur.
Il y a une oreille qui est une oreille très très ancienne, que l'on partage avec des animaux, qui est l'oreille des hommes d'il y a 100 000 ans, qui est une oreille qui a une fonction d'alerte, de vigilance. Et particulièrement, cette oreille est mise en activité lorsqu'on entend un son dont on ne connaît pas la cause. C'est potentiellement, et au niveau instinctif, un danger. Si bien que lorsqu'on écoute ces musiques qui sont faites avec des sons qui semblent étranges, où on ne peut pas dire, tiens, ça c'est un son de ceci, un son de cela, ça crée dans un premier temps, mais uniquement dans un premier temps, une situation anxiogène. Toutes ces musiques qui ont traversé quand même 70 ans de notre histoire récente sont utilisées beaucoup au cinéma, dans la publicité. Il y a des choses, alors quand il y a une image, ça semble donner une causalité à ce que l'on entend, et donc c'est acceptable. Mais inconsciemment, il faudrait parler du rôle considérable qu'a apporté le cinéma dans ce domaine-là, où de temps en temps il y a les sons de la réalité du film, mais de temps en temps ces sons prennent une sorte d'autonomie. Et donc, alors peut-être que les jeunes, il suffirait, c'est toujours facile à dire, mais de leur montrer qu'ils en ont eu déjà l'expérience, pour évidemment ouvrir des portes qui n'étaient pas véritablement fermées.
On vient d'entendre Lux Aeterna de Ligeti, c'est la musique du film L'Odyssée de l'espace de Kubrick. C'est l'un des plus beaux exemples d'utilisation de musique contemporaine dans le cinéma.
Alors la rencontre finale entre lycéens et les six compositeurs en lice, plus le gagnant de l'année dernière qui était Pierre Jodlowski, a eu lieu jeudi dernier. Là, ce sont tous les candidats que les lycéens venus d'un peu partout en France rencontrent et auxquels ils posent des questions. Ce débat, vous pouvez le retrouver si vous allez sur le site de France Musique, francemusique.fr, je pense à partir de la semaine prochaine.
Ce sera même déjà en ligne.
Très bien. Et puis on pourra retrouver également les compositeurs, le compositeur vainqueur de cette année, Carole Béfa, dans l'émission d'Arnaud Merlin, les lundis de la contemporaine. Merci Aliette de l'Alleu. La chronique de la Maison Ronde. Bonjour Marie Fauché.
Bonjour Dominique, bonjour à tous.
Le cœur de Radio France, Marie, se produit deux fois ces jours-ci à la Philharmonie de Paris demain, dimanche, avec le Los Angeles Philharmonique, dirigé, excusez du peu, par Gustavo Dudamel, et vendredi 25 mars avec l'Orchestre Philharmonique de Radio France, sous la baguette de Sophie Jeannin. Alors, cela vous a inspiré, Marie, une chronique sur le mot a cappella.
Oui, a cappella, pour isoler un peu le cœur des orchestres, aussi prestigieux soit-il, puisque a cappella, c'est la voix sans accompagnement. Et parce que c'est un mot que l'on utilise tout le temps sans toujours en connaître l'origine. A cappella vient de l'italien à la manière de la chapelle, et plus précisément de la chapelle Sixtine, où le chœur du pape était un modèle partout en Europe.
Le Miserere de Gregorio Allegri était ici interprété par le Jérusalem Oratorio Chamber Choir, dirigé par Masaaki Suzuki.
Et ce Miserere, composé en 1639, était chanté uniquement les mercredis et vendredis de la Semaine Sainte et uniquement à la Chapelle Sixtine. Les transcriptions, les copies, la diffusion de cette œuvre étaient interdites pour conserver son caractère unique. Mais voilà, ça n'était pas sans compter sur le génie de Mozart. Mozart qui a 14 ans quand il visite Rome avec son père et qui a le privilège d'assister à cet office le mercredi de la Semaine Sainte. Et le soir même, il retranscrit entièrement et de mémoire ce Miserere. Évidemment, il fut accusé d'avoir volé la partition. C'était difficile de croire qu'un enfant de 14 ans pouvait réaliser une telle transcription. L'année suivante, le Miserere était publié et l'interdiction papale était levée.
Heiterkeit und leichtes Blut, joyeux et le cœur léger, était interprété par le Wiener Akademie Kammerchor que dirige Javert Meyer.
Alors si l'on creuse encore l'origine du terme a cappella, par extension, c'est l'origine du mot chapelle que l'on trouve. Et le terme chapelle, eh bien figurez-vous qu'il vient du manteau, de la chape de Saint-Martin de Tours, dont les reliques étaient conservées par Charlemagne en un lieu que l'on nomma la chapelle. Aix devint d'ailleurs Aix-la-Chapelle. Saint-Martin faisait un usage bien particulier de cette chape. Avec elle, il réchauffait les pauvres transis de froid. La chapelle ardente désignait autrefois un groupe de chanteurs dirigé par un maître de chapelle. Un extrait de Grab und Mond, la tombe et la lune, pour illustrer ce terme de chapelle ardente, ici interprété par le chœur Arnold Schönberg, dirigé par Erwin Ortner. Restons dans cette couleur romantique et nocturne avec ce lied de Mahler, Erinnerung, souvenir, dans la transcription pour chœur a cappella de Klitus Gottwald. Le chant éveille l'amour éveille les chants, nous dit le texte. Comment mieux conclure cette chronique ?
L'ensemble vocal de la radio de Stuttgart, dirigé par Markus Kried, était l'interprète de ce lied, Erinnerung de Gustav Mahler, transcrit pour chœur a cappella par Clitus Gottwald.
Et c'est aussi dans Mahler que l'on retrouvera le chœur de Radio France ainsi que la maîtrise, demain dimanche à la Philharmonie de Paris. La troisième symphonie, précisément, interprétée également par l'orchestre de Los Angeles et Gustavo Dudamel.
Et puis, je vous rappelle également le concert de vendredi 25 mars avec le chœur et l'orchestre philharmonique de Radio France. Au programme notamment Music for the Funeral of Queen Mary de Purcell et la messe Nelson de Haydn. Merci Marie Fauché, à la semaine prochaine. Agenda. Nous vous le disions tout à l'heure avec Elsa Boublil, c'est aujourd'hui à 11h que se produira au studio 104 de la Maison de la Radio l'Orchestre français des lycées du monde avec la chorale des collégiens de Marcoussis, encadré par des musiciens de l'Orchestre philharmonique de Radio France qui parrainent le projet. Anne Villette et Mireille Jardon au violon, Jean-Claude Auclin au violoncelle, Jean-Pascal Poste à la clarinette, Jean-Pierre Audasso à la trompette. Dirigé par Adriana Tanus, toute cette belle petite troupe jouera Rameau, Lully, Bizet, Saint-Saëns, Brel, Oxmo Puccino et grâce à une commande de Radio France, la jeune compositrice belge Alitea Ripoll en création mondiale. Lundi 21 mars à 19h, Stéphane Golder recevra le quatuor Danel dans son émission « Les plaisirs du quatuor ». Au studio 106, retrouvez les quatre musiciens de ce quatuor, Marc Danel et Gilles Millet au violon, Vlad Bogdanas à l'alto et Jovan Markovic au violoncelle. Enfin jeudi, l'Orchestre National de France retrouvera l'un de ses chefs fétiches, l'Italien Riccardo Muti, qui dirigera un beau programme Schumann et Strauss, avec comme invité le pianiste David Frey. Ce sera à l'auditorium à 20h.
France Musique.
Veuillez écouter un reportage d'actualité.
Veuillez écouter notre concert de musique de chambre.
Le monde fabuleux des archives sonores. Bonjour Jean-Yves.
Bonjour.
J'ai failli vous dire bon dia.
Bon dia, bonjour à tous. Je retrouve aujourd'hui ma sémillante mannequin de la Maison Ronde que j'emporte cette fois, tel un bagage à main, en Espagne.
Mais oui, je suis d'accord. On y va ?
On y va tout de suite.
Qu'est-ce qu'on fait ? On va y danser ?
Alors, vous savez, il y a une fascination en France dès la fin du 19e siècle. Ça commence avec la connaissance des musiques d'Iradier qui ont été reprises par Bizet pour l'Espagne. Le soleil d'Espagne, cette culture qui part à la fois sauvage et agreste, etc. Et ça va se poursuivre jusqu'à la guerre, il faut bien le dire, de 36-37. Et les intellectuels parisiens, tous les artistes, ont un regard tourné vers l'Espagne. Alors, je vous propose donc aujourd'hui, à la radio, de ce temps-là, c'est-à-dire des années 30, de nous tourner vers l'Espagne. Et commençons avec une pianiste qui n'est pas si mal que ça, qui s'appelle Magda Taliaferro et qui, en 1934, a enregistré une sublime pièce Sevilla d'Albéniz. On écoute ?
Thank you.
Malia Taliaferro sur un piano Gavo, ça vous plaît?
Ça me plaît.
Et ça me plaît aussi, d'ailleurs.
Ce qui me plaît, en plus, c'est beaucoup de choses. D'abord, la prise de son est très belle. Bon, la pianiste, évidemment, c'est même plus la peine d'en parler. La prise de son est très belle et on a des indications. C'est assez rare dans notre domaine, vous l'avez souvent remarqué, on ne sait pas qui est l'orchestre, qui fait quoi. Mais là, on sait, Magda Taliaferro joue un piano Gavo et c'est enregistré en 1934. C'est écrit sur l'étiquette du disque. Voilà, ça c'est facile, ça j'aime bien.
Mais c'est surtout que cette artiste a le sens de cette musique.
Oui,
aussi.
Elle a une connaissance parfaite et profonde de la musique et elle défendra jusqu'à la fin de ses jours ce répertoire avec évidemment une grande habileté. Mais comme le temps nous est compté, je vous emmène de nouveau en Espagne avec deux artistes majeurs, Manuel de Falla et Maria Barrientos. Manuel de Falla a composé 7 chansons populaires espagnoles ou 7 chansons espagnoles, ça dépend en français la désignation, et il les a enregistrées lui-même au piano, Pleyel, avec Maria Barrientos. C'est peut-être pas la version la plus brillante, surtout pour le piano. Manuel de Falla n'est visiblement pas un grand pianiste, mais c'est ô combien attachant.
Por ver si me
Elle me plaît beaucoup, cette Maria Barrientos.
Ah ben, elle peut. C'est une des plus grandes cantatrices d'origine espagnole du début du XXe siècle. Cet enregistrement est étrange. On a vraiment l'impression d'un éloignement.
Un peu bizarre, oui.
Oui, et on est dans un domaine très très intime et le disque ne restitue pas très bien encore l'intimité.
Et pourtant, c'est un disque Columbia, Paris 1928. Donc on peut imaginer qu'à cette époque-là, la technique est au point.
On est au début du micro. Bon, il y a encore des petits ratés, faut le croire. Mais bon, en même temps, ça nous permet d'inventer peut-être ce qui manque.
Et puis c'est un beau témoignage, Manuel de Falla au piano.
Oui. Alors, pour terminer, c'est une invitation à la rêverie. Nous avons une invitation à l'imagination. Maintenant, c'est une invitation à la rêverie avec la pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel, dont le titre évoque l'Espagne. Mais on s'arrête là. En fait, c'est une évocation, c'est une invitation. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle était enregistrée en 1947 par Gaby Casazu, la grande pianiste française qui a travaillé avec Maurice Ravel. Donc on est en prise directe, une nouvelle fois, avec le sujet. C'est pas Manuel de Falla, c'est pas Maurice Ravel en direct, mais
pas
on
loin.
Est tout proche. Thank you.
Gabi Casazzi au piano, qui jouait cette pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. Un disque Polydor, Paris 1947.
Vous avez pu admirer la longueur de ce 78 tours, qui d'ailleurs, finalement, à la fin ne restitue pas le son d'aussi bonne qualité qu'au début du sillon, mais c'est une prouesse technique.
Merci Jean-Yves Pat.
À la semaine prochaine.
Voici notre rubrique Parlez-moi de musique dans laquelle vous nous confiez vos souvenirs musicaux. Ce matin, nous découvrons le texte que nous a envoyé Odile Gordon Lennox. Je suis assise à côté de ma grand-mère dans un autocar bondé. Nous sommes pris dans un embouteillage car les rues des villages sont étroites. Il fait chaud, c'est l'été, on étouffe. Tout à coup, grand-mère se met à chanter. Je suis là, sous ta fenêtre, de sa voix claire et forte. Grand silence dans le car. Elle continue avec d'autres airs d'opéra. Je me sens très gênée car les passagers ne parlent plus, se retournent pour l'écouter et la regardent. Quand grand-mère s'arrête, les bravos, les applaudissements éclatent et on lui en demande encore. Quel succès ! Et moi, je me sens mieux. Grand-mère sourit. Tout va bien, l'autocar avance et nous sommes bientôt arrivés. Grand-mère connaissait de nombreux airs d'opéra, tous assez émouvants, qui remplissaient notre maison quand elle cousait ou accompagnait nos promenades. Elle m'avait dit qu'avant son mariage, elle chantait dans des concerts de bienfaisance, il y avait plus de 50 ans. Quelle joie lui apportaient ces airs, maintenant chargés de tant de souvenirs. À la maison, nous avions des disques classiques, mais surtout des concertos et des symphonies. C'est ma grand-mère qui m'a fait connaître ce répertoire des compositeurs de la fin du XIXe siècle. Quand je les entends, par hasard, à la radio, Massenet, Gounod, sans oublier Schubert, ils sont si riches d'émotions pour moi que je ne peux que les aimer. Pour illustrer le souvenir musical de notre auditrice, nous avons choisi une version du Stanchen de Schubert par Lise de la Salle au piano, ce qui semble être l'air que chantait la grand-mère de Odile Gordon Lennox, puis les deux pigeons de Charles Gounod par la soprano Darin Zimmer avec Gail Sergey au piano. N'oubliez pas que cette rubrique se nourrit de vos souvenirs, alors n'hésitez pas à prendre la plume et à nous raconter l'un de vos grands moments avec la musique. Je me ferai une joie de vous lire à l'antenne. Et pour finir, il y a des places de concert à gagner ce matin encore dans Fabrication Maison. Des places pour un concert maison que Sophie Janin dirigera le 25 mars. Nous vous en parlions déjà tout à l'heure. Elle sera à la tête de l'Orchestre Philharmonique et du Chœur de Radio France dans un programme anglais avec les musiques pour les funérailles de la Reine Marie d'Henry Purcell, Eternity Sunrise de Steve Martland et la Messe Nelson de Joseph Haydn. Pour gagner des places pour ce concert, il vous suffit de nous écrire sur le site de l'émission Fabrication Maison sur francemusique.fr. Voilà, c'est la fin de cette émission réalisée avec la complicité de Pauline Boisaubert, de Philippe Petit, de Clément Vuillet et d'Alexandre Billard. Excellent week-end à tous.